Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. La lune monte dans vos oreilles et elle monte presque dans le ciel. Maintenant, il fait noir. Déjà, c'est fou hein, comme ça change. Ha ha ha, quel gang, vraiment. Ça, c'est tout à fait original. Et oui, on s'approche. On va vers l'hiver. Qui l'eût cru, qui l'eût dit. Eh bien, la lune, en tout cas, elle est toujours là. Tous les mercredis soirs, à partir de 18h30, la lune est dans vos oreilles sur 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, et notre adresse, Ondes Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Dans quelques instants, les informels. Ce soir, malheureusement, on n'a pas de coup de cœur de Marjolaine. Marjolaine est malade. Nous la saluons bien. Gros bisous pour Marjolaine. Elle sera là la semaine prochaine, mais dans quelques instants, c'est les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone, nos nouvelles. Paris refuse son entrée à Taslima Nasrin, l'écrivaine du Bangladesh, qui est donc sur qui une fatwa a été lancée et une condamnation à mort dans son pays. L'écrivain bangladaise a donc refusé de voir son séjour en France limité à 24 heures. Elle n'est pas venue du tout. Taslima Nasrin, menacée de mort par les fondamentalistes musulmans de son pays, a donc renoncé la semaine dernière à venir en France après n'avoir obtenu qu'un visa de 24 heures, provoquant des vives réactions dans les milieux gouvernementaux, politiques et culturels. Taslima Nasrin vit en Suède depuis 10 ans. Elle avait prévu de rester une semaine en France. Taslima Nasrin devait participer à plusieurs rencontres littéraires à l'invitation de la Maison des écrivains, de la revue La Règle du Jeu et de la FNAC, tant à Paris qu'en province. L'association Reporters sans frontières, qui était un des organisateurs de cette visite, s'est déclarée très déçue et même choquée par l'attitude du gouvernement français, alors que Taslima Nasrin a quitté légalement son pays pour la Suède, qui l'accueille depuis le 10 août dernier et qui lui assure une protection policière de tous les instants et qu'elle a circulé librement jusqu'ici dans plusieurs pays d'Europe, Pays-Bas, Norvège, Portugal, etc. Interrogé sur cette affaire, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a justifié la décision du gouvernement en expliquant, je cite, qu'au-delà de 24 heures, la sécurité de l'écrivain Taslima Nasrin n'était pas assurée. Le ministre a indiqué qu'il avait pris l'avis du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire M. Pasqua, qui lui, dans son trip sécuritaire, a répondu que la sécurité ne pouvait être assurée que pour 24 heures. Pauvre petit. Il semble toutefois que cette demi-mesure d'un visa de 24 heures soit le résultat d'un arbitrage de Matignon, Édouard Balladur ayant coupé la poire en deux entre un Toubon et un Juppé favorable à la venue de Taslima Nasrin et d'un Pasqua hostile à ce projet. Antoinette Fouque, directrice des éditions des femmes, députée européenne, appelait avec l'Alliance des femmes pour la démocratie un rassemblement de protestation devant le ministère des Affaires étrangères. Quels qu'en soient les résultats, l'aventure est en tout cas pitoyable. Les grands vainqueurs ont bien failli en être les intégristes islamiques qui, sans même piper mot, par la seule crainte qu'ils inspirent à notre ministre d'État, ministre de l'Intérieur Pasqua, ont pu se targuer auprès de leurs fidèles d'avoir empêché une femme issue d'un pays musulman, une renégate selon leur terminologie, de tenir en France un langage de liberté. On croyait pourtant avoir entendu François Bayrou expliquer une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale qu'il était surtout opposé au port du voile dans les établissements scolaires parce qu'il y voyait l'affirmation publique d'un statut inférieur de la femme. L'autre leçon, c'est qu'insensiblement, le prétexte sécuritaire est en passe d'être hissé par Charles Pasqua au rang de raison d'État. La sécurité ne gagne rien à ce genre de dévoiement, mais la France y récolte le ridicule. <t'-> Les féministes parisiennes se mobilisent autour de la candidature de Susana Higuchi, femme de l'actuel président péruvien. Depuis que celle-ci a commencé à faire campagne contre ce mari, en le critiquant publiquement, elle fait l'objet de brimades répétées. Elle est soumise à une violence psychologique et une restriction de ses mouvements en tant que first lady de la nation et même de citoyenne. On l'empêche de recevoir des visites, on l'enferme dans ses appartements, on la sépare de ses enfants. Une lettre de soutien circule dans le monde entier afin que les droits de Madame Higuchi soient respectés, comme doivent d'ailleurs l'être ceux de toutes les femmes. Un évêque africain fait sensation au Vatican. L'évêque congolais de Wando a provoqué la stupeur du synode catholique romain en proposant de consentir l'accès des femmes au cardinalat. Elles ne peuvent pas être prêtres, mais elles pourraient être cardinales. Il s'agirait, à son avis, de créer des cardinaux femmes laïques, c'est-à-dire non ordonnés prêtres, puisque le droit canon n'autorise pas l'ordination des femmes. Puisse Dieu, a-t-il dit, faire des femmes consacrées une lumière incandescente qui éclaire le monde et constitue un sel véritable de la terre. Puisse Dieu, a-t-il ajouté, inspirer l'attitude prophétique qui consisterait à nommer des femmes, parties importantes, déconsacrées en nombre comme en qualité, à des postes de responsabilité, voire aux postes les plus élevés de la hiérarchie comme cardinaux laïcs. Au cours des travaux, différents évêques sont intervenus en faveur des religieuses en demandant qu'on leur accorde davantage de responsabilités au sein de l'Église. En France, 300 personnes manifestent à Mantes en faveur du foulard pour les jeunes filles qui vont à l'école. Première manifestation de rue en faveur du foulard islamique s'est déroulée dans le calme. 300 personnes, parmi lesquelles une cinquantaine de jeunes filles et de femmes musulmanes voilées, ont défilé lundi à Mantes-la-Jolie. Cet appel avait été lancé à la suite de la décision du proviseur du lycée de Saint-Exupéry de donner jusqu'au 1er novembre aux 24 élèves voilés du lycée pour retirer leur foulard, sinon elles seront renvoyées. À Goussainville, où il y avait déjà eu une agitation, une dizaine de militants du comité de défense du droit à l'enseignement a de nouveau tenté de mobiliser les élèves du lycée Romain Rolland. La semaine dernière, cette organisation prenant les vertus de l'islam était déjà intervenue, mobilisant quelques dizaines d'élèves. Mais cette fois, son appel au boycott des cours n'a pas été suivi. En revanche, deux des quatre jeunes filles voilées ont pu suivre un cours sans retirer leur foulard grâce à un enseignant qui a brisé la solidarité et entraîné la colère de la plupart de ses collègues ainsi que celui du proviseur. En Suisse, les banques licencient, les femmes trinquent. Rien qu'en 1993, dans le cadre de la restructuration drastique, des banques et des établissements financiers ont supprimé 1713 emplois en Suisse, dont 1570, c'est-à-dire 92%, étant été occupés par des femmes. La proportion des femmes à l'effectif total est donc passée de 41% à 39%, mais si dans les grandes banques leur nombre reculait de 6%, le personnel masculin, lui, a augmenté de 0,6%. Nous apprenons que dans tous les pays d'Europe occidentale, la Suisse est le pays où les filles sont le moins bien représentées dans le domaine de l'enseignement supérieur. En effet, tandis que la moyenne européenne est de 95 filles pour 100 garçons, les Suisses ne comptent que 54 femmes pour 100 garçons. Ces statistiques ne peuvent que rassurer les vieillards frileux et réjouir ce pays où chaque enfant naît soldat, poil au bras. Et aux quelques littérateurs qui viendraient dire que l'enseignement supérieur devrait être le bastion de l'égalité des chances, on répondra comme Balzac, émanciper les femmes, c'est les corrompre. Une étude vient de montrer que les femmes sont très rares dans les hautes sphères de la magistrature vaudoise. Les femmes sont intéressées depuis peu aux postes les plus élevés de la justice. Chez elles, c'est très difficile d'accéder car leur cursus honorum, comme on l'appelle, est souvent interrompu, entre autres par la maternité. Plus on monte dans les hautes sphères, moins on trouve de femmes. Ainsi, l'instance judiciaire suprême, le tribunal cantonal, compte pour 15 juges une seule femme. Un autre tribunal, le frère cadet, le tribunal administratif, lui, est constitué de 5 magistrats tous masculins. Quand on descend dans la hiérarchie, au niveau des présidents des tribunaux de district, des mineurs, des beaux, ou des présidents itinérants, rattachés transitoirement à la Cour civile, là, on trouve, commence à trouver des femmes, 6 sur un total de 26 postes. Et quand on descend encore d'un nouveau cran pour finir au niveau des vice-présidents des tribunaux du district, là, les femmes sont à moitié, sont représentées par moitié. Un avocat lausannois l'admet, l'idée qu'un homme puisse comparaître devant une femme effarouche certains de ses aînés. L'un d'eux d'ailleurs le dit avec le sourire, mais quand même, cette idée lui donne carrément de l'urticaire. La raison, c'est qu'effectivement, peu de femmes se présentent, car pour être arrivé à ce niveau dans la magistrature, il faut bien sûr avoir passé tout un cursus, mais puis en plus connaître bien sûr beaucoup de gens. Les femmes dans l'ensemble n'ont commencé à s'intéresser que depuis assez peu de temps à ces postes auxquels on accède, pas sans avoir, outre une bonne formation académique, une bonne expérience du monde judiciaire. Il est donc important d'avoir pratiqué le barreau pour devenir président ou d'être président pour devenir juge cantonal. Ce cursus honorum, comme on l'appelle, est souvent interrompu chez les jeunes femmes par des maternités. Les choses devraient cependant changer puisque le barreau vaudois, qui représente quand même le vivier des juges, la faculté de droit qui représente le vivier du barreau, commence à se féminiser incroyablement. Il y a 30 ans, il n'y avait pas du tout de femmes. Actuellement, les femmes sont en majorité. Révision, toujours en Suisse, révision de l'AVS, ça tourne au cauchemar. Pour le Parti Socialiste, on lance une initiative par référendum. L'Union syndicale suisse, elle, est pour lancer un référendum. En tout cas, au niveau du Parti Socialiste, en introduisant donc le splitting et le bonus éducatif tout en faisant passer à 64 ans l'âge de la retraite des femmes, la 10e révision de l'AVS pose vraiment un dilemme. Comment empêcher le relèvement de l'âge de la retraite sans mettre en péril les autres acquis sociaux? Le Parti Socialiste, les Verts, la Conférence des syndicats chrétiens se sont prononcés, ainsi que l'Union syndicale suisse. Le Parti Socialiste a donc renoncé à lancer un référendum contre cette 10e révision. Pour combattre l'élévation de l'âge de la retraite, il a opté pour l'initiative. Pour la conseillère nationale Christiane Brunner, le référendum était la seule réponse possible à l'arrogance des partis bourgeois qui ont rajouté au dernier moment la question du relèvement de l'âge de la retraite. Cette adjonction est une provocation, a déclaré la conseillère nationale Margrethe von Felten. Selon elle, il n'est pas question de céder au chantage, mais la base n'a pas suivi. On a décidé donc de ne pas faire un référendum, mais de poser une initiative ensuite contre le relèvement de l'âge de la retraite. Pour sa part, le comité directeur du Parti écologiste suisse, les Verts, a décidé une double initiative. L'un prévoit une retraite flexible pour tous à partir de 62 ans. La seconde propose un impôt énergétique pour financer les frais supplémentaires et réduire le prélèvement sur les salaires. Quant à la Confédération des syndicats chrétiens de Suisse, il a décidé de lancer un référendum contre la 10e révision de l'AVS. Et puis, l'Union syndicale suisse a également décidé de lancer ce référendum qui donc relève l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans. Mais afin de sauver les acquis sociaux de cette même révision, si le référendum était accepté, l'Assemblée des délégués de la plus importante organisation syndicale de Suisse a par ailleurs accepté à l'unanimité de lancer simultanément une initiative populaire. Cette dernière doit faire pression sur le Parlement afin qu'il réintroduise les avantages de la 10e révision, c'est-à-dire la retraite séparée pour les couples, le splitting, ainsi que le bonus éducatif, notamment en cas de succès populaire du référendum. C'est compliqué, hein? Vous êtes d'accord. En optant résolument pour le référendum, l'Assemblée a voulu montrer sa volonté de résister à une tentative de démantèlement général des droits sociaux. Cette loi révisée, un référendum, une initiative du Parti Socialiste et de l'Union syndicale suisse, une initiative de la Fédération suisse des employés de commerce, une autre initiative des Verts, une seconde initiative de l'USS et du PSS, la révision de l'AVS tourne vraiment au cauchemar. Mais en tout cas, une chose est sûre, selon le même, le Conseil fédéral, le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans pourrait exclure 35 000 femmes du marché du travail. Cela occasionnerait à l'assurance chômage des coûts supplémentaires de 350 millions de francs. Le versement d'indemnités à des chômeuses âgées de 62 à 64 ans coûterait 35 millions supplémentaires. En revanche, l'AVS économiserait 870 millions de francs par an. Sont comprises dans ce chiffre les économies réalisées par l'AVS qui n'aurait pas versé de rente aux femmes de 62 à 64 ans, les cotisations qu'elles continueraient à payer pendant 2 ans. Toutefois, les propositions visant à faciliter l'accès des femmes à une retraite anticipée réduiraient de fait cette économie. Quant aux dépenses que ces 2 ans de travail en plus représenteraient pour les assurances maladie, accidents et l'assistance publique, elles sont impossibles à chiffrer. On vous l'a dit, cette assurance AVS, c'est un véritable casse-tête. En Suisse, toujours, un dirigeant d'une secte est condamné pour avoir abusé d'une fille de 12 ans. L'homme écope de 3 ans ferme. Le tribunal cantonal a condamné un Zurichois à 3 ans de réclusion pour avoir abusé sexuellement d'une fille de 12 ans. L'homme de 43 ans dirigeait une secte, se faisait appeler Adonai, appellation hébraïque signifiant « Monseigneur ». À Genève, grande manifestation exigeant la libération des 4 séquestrés de la police fédérale. Je vous rappelle le cadre de l'histoire. Depuis 1 mois, 4 personnes sont enfermées à Berne, à Genève et à Lausanne, soi-disant pour avoir commis certains attentats en lien avec le groupe Carlos. Il s'agit de 2 hommes et deux femmes, 2 à Genève, 2 dans le Tessin, qui depuis 1 mois sont donc séquestrés par la police fédérale. La réponse à Genève, une manifestation de 1000 personnes qui exigent la libération des 2 Genevois arrêtés. Libérer les séquestrés, le terme le semble bien avoir pris. Il a été scandé samedi tout au long d'une manifestation suivie par environ 1 million de personnes. Le cortège a exigé la libération des 2 Genevois emprisonnés depuis plus de 3 semaines sous l'accusation d'être liés au groupe Carlos. Les manifestants ont également exigé la libération des 2 Tessinois arrêtés dans le cadre de la même affaire. Une manifestation haute en couleurs, tambours, percussions, cracheurs de feu, gigantesques statue représentant la Confédération, appelée sarcastiquement Carlos del Ponte, nom inscrit sur une valise bourrée de narcodollars. Un jeu de mots en forme de néologisme faisant l'amalgame entre le terroriste Carlos et le procureur général de la Confédération, Carla del Ponte, en charge de cette affaire. Une manière aussi de montrer que dans cette affaire, les amalgames ne manquent pas, comme par exemple celui qui a consisté à accuser les antinucléaires de faire usage de méthodes terroristes. Une manifestation qui reflétait aussi l'engagement politique des 2 militants emprisonnés. On a souligné que plusieurs générations de militants qui se côtoyaient samedi, depuis les contestataires de la guerre du Vietnam aux jeunes squatteurs en passant par les habitants du quartier des Grottes et les antinucléaires, se reconnaissent dans les personnes arrêtées. La manifestation était soutenue par l'ensemble de la gauche, les Verts, des nombreuses associations pacifistes, tiers-mondistes, écologistes, féministes, ainsi que par des syndicats comme le SLP ou la VP. La demande de libération demandée par les avocats a été refusée. Un recours a donc été déposé vendredi au tribunal fédéral. Plusieurs orateurs ont exigé que la défense ait enfin accès à l'intégralité des dossiers. La présidente du Parti écologiste genevois, Mme Fabienne Bunion, conseillère nationale, a dénoncé la tentative de criminalisation du mouvement antinucléaire et plus généralement des mouvements sociaux progressistes que l'on a pu observer ces derniers jours. Dernière nouvelle, un des séquestrés a été déplacé à la prison de Bois-Mermet à Lausanne. Et pour terminer notre cochon de la semaine, eh bien cette semaine c'est une cochonne. Oui, c'est une designer, une dessinatrice allemande qui a conçu une voiture pour femmes. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que c'est une cochonne? Eh bien je vais vous décrire qu'est-ce qu'elle entend par une voiture pour femmes, quels sont les besoins d'une femme en matière de voiture selon cette dessinatrice, Madame Beate Gabelt, jeune allemande de 25 ans qui a donc réalisé cette quête d'une voiture pour femmes. Donc après la voiture pour la ville, la voiture écologique, voici que les constructeurs automobiles préparent la voiture pour femmes. Alors comment est-ce qu'elle est ? Premièrement, elle a des portières qui s'ouvrent très facilement. Elles permettent ainsi un meilleur accès pour les femmes en jupe très très serrée avec des très longs talons et qui facilitent aussi le stationnement de la voiture parce que vous savez, les femmes ont beaucoup de problèmes à garer. Elles ne savent jamais. Surtout alors les parkings, comment on appelle là, en créneau, c'est horrible. Et puis, la conception des sièges doit permettre à la conductrice de paraître svelte, parce que les grosses, c'est moche. Alors, une voiture, on a l'air très maigre, ça c'est mieux. Les pare-chocs et les ailes ne sont rattachés à la carrosserie que par des fermetures à bandes agrafantes, ce qui permet aux parties froissées par une collision d'être changées rapidement, même par des profanes, parce que c'est évident, les femmes font toujours des accidents, alors il faut des voitures qu'on répare facilement. Eh bien, Madame Beate Gabelt, par cette vision que vous avez des femmes belles, stupides et ne sachant pas conduire, vous méritez le chapeau de la cochonne. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. J'aimerais encore vous annoncer quelques points. Vous savez que l'organisation des femmes en noir qui toujours depuis 2 ans maintenant résiste à la guerre et au nationalisme en ex-Yougoslavie continue ses manifestations mensuelles pour protester contre cette guerre. Comme toujours, les premiers jeudis du mois, elles se réunissent en noir avec une bougie. Alors, la prochaine manifestation, c'est le 3 novembre, entre 18h15 et 18h45. Alors, on change d'endroit, ce n'est plus à la Fusterie, c'est à l'angle rue de la Servette, avenue 20, à côté de la Migros. Donc, essayez de venir vêtue de noir, une bougie à la main. Rappelons aussi que les femmes en noir à Genève ont soutenu financièrement des centres thérapeutiques pour femmes victimes de violences, c'est le cas en Bosnie, et qu'il y a partout en Europe des réseaux d'entraide et de résistance, des groupes de femmes qui en Suisse, en Europe, à Genève, protestent donc symboliquement dans la rue. Si vous voulez les rejoindre, vous allez donc le 3 novembre à 18h15 devant la Migros de la Servette, angle rue Servette, rue Vnavent. Autre rendez-vous, une exposition est présentée par le groupe Filigrane qui s'appelle Les femmes et la science. C'est présenté donc dans le cadre de l'édition 94 de La Fureur de lire. Et c'est donc dans la maison de l'égalité entre hommes et femmes à la rue de la Tannerie, c'est à Carouge, une petite maison magnifique derrière le théâtre de Carouge. Et vous pouvez donc assister à cette exposition Les femmes et les sciences. C'est ouvert du 11 au 16 octobre. Entrée libre, c'est ouvert donc de 14h à 18h et le mercredi de 16h à 20h. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer, si vous avez déjà passé par ces moments difficiles, si vous voulez essayer de vous informer, de trouver un appui, de partager votre point de vue, de discuter de tout cela, un groupe est mis sur pied par F-Information, donc sur le thème séparation ou divorce, s'informer, échanger pour mieux vivre ces moments. C'est donc un groupe qui aura 10 rencontres. La première rencontre, c'est le jeudi 13 octobre. Pour tout renseignement, vous téléphonez à F-Information 740 31 00. Je répète, 740 31 00. Vous dire aussi que L'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens tiendra sa assemblée générale le vendredi 14 octobre à 20h à la maison du quartier de Plainpalais à la rue Hugo de Singuer, avec entre autres une discussion avec Annie Fioré qui parlera de son expérience dans les territoires occupés et présentera son livre bouleversant « Rêve d'indépendance, chronique du peuple de l'Intifada ». Annie Fioré est une journaliste française écrivaine qui sera là à partir de 21h30, c'est le vendredi 14 octobre à 20h, maison du quartier de Plainpalais, 4 rue de Hugo de Singuer, c'est une petite rue vers la rue d'Ancet. Je vous signale également une exposition de Sophie à la galerie aux Grottes jusqu'au 12 octobre, ce sont des très jolis tableaux, allez-y les voir. Et puis vous dire encore que le collectif du 14 juin organise encore un nouveau marché aux puces fuchsia pour, entre autres, trouver de l'argent. Ça financera beaucoup de choses, entre autres une campagne contre le relèvement de l'âge de l'AVS. Une partie de la recette sera également attribuée à Medica, le centre thérapeutique pour femmes victimes de guerre en Bosnie. Donc, si vous avez de la vieille vaisselle, non, de la belle vaisselle, des articles de ménage, des bibelots, des bijoux, des tableaux, etc., des livres, vous les apportez à ce marché aux puces qui aura lieu le 26 novembre au centre de loisirs des Astères de 10h à 14h, ou si vous ne les avez pas, mais venez en acheter. Donc tous les objets attrayants et en bon état peuvent être récoltés. Vous téléphonez à Marielle Budry, 734 43 86. Je répète, Marielle Budry, 734 43 86. Je termine en vous disant que le nouveau Femme Suisse vient de paraître, qu'il est construit sur 3 dossiers. Le parlez-vous politiquement correct, vous savez que c'est un des thèmes très porteurs aux États-Unis. Sommes-nous politiquement corrects? Et puis on parlera également de la question de Haïti. Au niveau culturel, une analyse est faite sur le film de la reine Margot. Voilà, nos nouvelles sont cette fois-ci terminées. Je vous rappelle que ce soir, Marjolaine n'est pas là pour vous parler de ses coups de cœur. C'est bien dommage, mais restez à l'écoute. Nous vous avons préparé un programme musical de première classe. À très bientôt.
Charge you.